magasin.
Le 7-9 de Matin Première.
François Heureux.
8h32, le parti pris, le regard de personnalité sur l'actu du jour. Il y a Juliette Boulay, porte-parole de Greenpeace, et Valérie Lerouge, correspondant à Bruxelles pour France Télévisions. L'impeachment de Trump pour débuter, puisque le procès en destitution débute aujourd'hui au Sénat américain. Donald Trump accusé d'avoir fait pression sur le président ukrainien Zelensky pour qu'il salisse la réputation de son adversaire démocrate Joe Biden.
Les actions du président jusqu'à ce jour ont gravement violé la Constitution. Le président américain a admis avoir demandé à son homologue ukrainien des informations qui auraient pu lui être bénéfiques sur le plan politique. En conséquence, j'annonce que la Chambre des représentants ouvre officiellement une enquête en vue d'une destitution. Le président doit rendre des comptes. Personne n'est au-dessus de la loi.
La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, c'est elle qui porte, côté démocrate, cette procédure de destitution. Valérie Lerouge, c'est la chronique d'une destitution qui n'aura pas lieu. C'est une sorte de grand théâtre qui va finalement...
C'est un grand moment politique, plus que de justice, hein, d'ailleurs. C'est un feuilleton dont je suis assez pressé qu'il se termine, parce qu'on connaît, on connaît quand même à peu près l'issue. Voilà. Il n'y a aucune surprise. Il n'y a jamais eu un président des États-Unis qui a été destitué. Il y a eu deux, quatre figures comme ça, mais à chaque fois, de toute façon, le Sénat les sauve. C'est ce qui va se passer cette fois-là. Et contrairement à ce qu'on pense, je reste convaincu que ça va non seulement pas affaiblir Donald Trump, mais que ça va le requinquer à 10 mois de la présidentielle. Donc je sais pas s'il faut se réjouir de ce moment de ce moment politique.
Donc vous pensez que cette procédure va avoir l'effet inverse finalement recherché, elle va pas salir l'image de Trump, elle va plutôt le grandir.
Oui, parce que ce qui lui est reproché, à mon avis, laisse indifférent la plupart des Américains. Mm-hmm. Autant Clinton, l'histoire était beaucoup plus... Croquant, c'est le cas de le dire, avec Lewinsky. Et puis, surtout, il avait menti sous serment, ce qui choque réellement les Américains. Ce qui est aussi assez simple à comprendre. Là, l'histoire, elle est loin. C'est avec le président ukrainien. C'est presque des on dit. Je pense que les Américains sont contre-fiches. Ouais. Et ils vont avoir d'autant plus l'impression que c'est Washington qui se monte un peu comme ça contre Trump, ce qu'il utilise à fond d'ailleurs. Hein. Il dit que c'est une farce qui est montée contre lui et je crains que ça lui profite.
Juliette Boulay, d'accord avec ça? Ça va renforcer l'image de Trump au lieu de le desservir? Ça va resserrer ses partisans derrière lui?
Oui, mais cependant, je pense que ni le Congrès ni le Sénat n'avaient le choix d'entamer cette procédure quand même pour faire respecter la loi et aussi signifier aux citoyens américains que nul n'est au-dessus de la loi, même si au final, effectivement, il y a peu de surprises sur l'issue de cette procédure. Mais effectivement, je pense que malheureusement, ça va encore renforcer la grosse division qu'il y a au sein de la société américaine entre ceux qui sont un peu plus anti-establishment et qui vont souvent plutôt soutenir Trump et qui vont effectivement suivre son fil Twitter et considérer que c'est la vérité absolue. Et puis entre ceux qui sont encore... qui ont encore envie d'espérer qu'une société américaine puisse être différente que celle de l'exclusion qu'a créée Trump. Parce que malheureusement, je crois que le bilan, il est plutôt effectivement un bilan politique qu'on devra faire de ce qu'il a mis en place et surtout de tout ce qu'il a détruit et la société qu'il laisse. Et donc, je ne sais pas si ça va renforcer toucher, impacter négativement son image avant les prochaines élections. Mais voilà, moi je pense que justement ça renforce encore cette division dans la société et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de dresser des murs entre les gens, entre ceux qui vivent dans les grandes villes et ceux qui vivent dans les milieux plus ruraux. On a besoin de créer plutôt de la sérénité, quoi.
Ouais, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, donc j'imagine, avec les partisans de Trump qui disent que son bilan, en tout cas... aux États-Unis est plutôt positif, avec création d'emplois, une économie qui tourne mieux qu'avant. On peut pas prendre ces aspects-là en compte.
Mais je pense que même des grands économistes commencent à faire la part des choses aussi et comprennent que il a peut-être renforcé certains pans de l'économie qui sont surtout ceux qui profitent aux plus riches, aux 0,1% des plus riches, mais que de manière générale, même sa fiscalité va plutôt impacter négativement les classes moyennes. Et donc, il a utilisé un discours qui était plutôt anti-establishment et plutôt « je suis le candidat de tous ceux qui se sentent laissés sur le côté », mais dans les faits, il va renforcer encore plus les disparités entre les gens. Il a créé des murs aux frontières avec le Mexique. Et donc, tout ça, on pourrait peut-être en rire s'il n'y avait pas toutes ces pertes de vie humaine qui sont causées par ces politiques et son détricotage aussi de ces politiques en matière de santé sont quand même catastrophiques. Et sans parler évidemment de son retrait de l'accord de Paris sur le climat qui a des conséquences déjà aujourd'hui très... très importante.
Bon, le monde ira mieux si c'est pas Trump qui se succède à lui-même. On peut résumer ça comme ça. Oui. Julie Boulet, vous êtes d'accord avec ça, Valérie Lerouge?
Oui, pour l'instant, ce qui est marrant, c'est que ça n'a aucun impact. En tout cas, cette histoire n'a aucun impact sur sa cote de popularité. Hein. Il reste à 44%. Je crois qu'Obama était à 45 à peu près à la même époque, à la fin de son premier mandat. Et effectivement, le bilan économique, il est plutôt bon pour l'instant, mais tout ça est à très court terme. En fait, il s'assoit sur tout ce qui est environnement, il s'assoit sur des accords de libre-échange, c'est comme ça. Donc oui, le bilan économique. Et je pense que ses supporters le rendront bien dans les urnes. Effectivement, il est plutôt florissant. Sa diplomatie à coup de tweet, séduit aussi assez ses électeurs, je pense.
Et après Washington, on vous emmène dans une petite station de ski, hein, dans les Alpes suisses, qui accueille depuis 50 ans et même plus celles et ceux que l'on appelle les grandes ce monde. C'est le début du Forum économique mondial à Davos.
Nous avons souvent agi comme un lieu de rencontre, qui ensuite, comme dans le cas de la Turquie et de la Grèce, de l'Amérique du Sud, ou encore du Moyen-Orient, par exemple, ont permis de mieux comprendre les pays et peut-être même d'éviter une guerre.
Nous devons reconnaître qu'en ce moment, dans le monde entier, il y a une colère. Les gens descendent dans la rue et demandent essentiellement « Avons-nous besoin de milliardaires dans ce monde ?» Et c'est la question cruciale à laquelle le Forum économique mondial devrait essayer de répondre.
Juliette Boulet, Davos, c'est une réunion qui permet d'améliorer le monde ou c'est un club de riches qui œuvre, grosso modo, pour conserver ses privilèges?
Mais il y a un point intéressant, c'est qu'ils sont tous concentrés au même endroit dans un petit village. C'est un grand rendez-vous des grands décideurs de ce monde, tant dans le monde financier qu'économique et politique. Et donc, c'est clair qu'il y a un intérêt à y aller pour la société civile, pour pouvoir rencontrer ces gens, etc. Mais je vous avoue que je suis quand même assez perplexe aussi sur la finalité de ce genre de rendez-vous et sur l'efficacité aussi, parce que finalement, c'est miser sur la bonne volonté de tous ces gens, de toutes ces grandes entreprises et de tous ces grands décideurs mondiaux. Et finalement, si je prends par exemple juste l'enjeu du réchauffement planétaire, on voit bien que c'est pas suffisant de simplement miser sur la bonne volonté, que simplement miser sur la volonté des grandes entreprises de développer des nouvelles technologies qui vont lutter contre le réchauffement planétaire, ou de voir des grands, des milliardaires s'engager sur une meilleure fiscalité, etc., etc. Et donc, je suis divisée sur cette idée parce que je pense que les grands changements se sont faits aussi sur des révolutions citoyennes, sur des mouvements sociaux, et ces mouvements-là, ils se passent pas à Davos.
Mais on le fera avec ou sans eux, finalement
Le problème, c'est que si on doit faire face aux grandes urgences climatiques et sociales, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, on est tous sur la même planète et donc on a besoin d'eux aussi. Mais on a besoin aussi que ces gens comprennent qu'il y a une autre vie que celle des salons confortables dans lesquels ils vivent et prennent des décisions. Et donc, je pense que c'est surtout, pour moi, le bruit de la rue et des citoyens qui doit se faire entendre. Et donc, quand on est tous réunis à Davos, on n'entend pas ce bruit-là.
Valérie Lerouge, est-ce qu'il faut diaboliser Davos en le présentant comme le salon des ultra-riches qui parlent entre eux? Ou bien c'est un lieu où on peut faire avancer le monde dans une meilleure direction?
Je sais pas, sans le diaboliser, je crois que c'est Jacques Attali qui disait, l'écrivain économiste, qui disait que c'était une super machine à café, où on se retrouve entre riches, on serre les mains et on se dit bonjour. Et c'est tout. Il se passe rien, on ne décide rien. Il n'y a pas beaucoup de fonds finalement, c'est quand même, faut être vu, quoi, à Davos. Et je trouve ça particulièrement indécent, en fait, cette année, où on fait une espèce de greenwashing, où on met le climat vraiment en avant, avec Greta Thunberg qui sera là, face à Trump, super. Mais Davos, c'est quand même 3000 participants, dont la plupart viennent en jet. Je pense que c'est le bilan carbone le plus désastreux quand même de tous les rassemblements du moment. Mais on ose mettre ce thème-là quand même en priorité. Je trouve que ça touche des sommets d'indécence.
Quoi, quand les entreprises et les États disent qu'ils vont dorénavant se montrer plus responsables, vous ne croyez pas?
Je crois qu'il y a ArcelorMittal, Engie, Google qui sont. Enfin, ça n'a jamais été les plus grands défenseurs de la cause, quoi, j'ai l'impression.
Vous n'y croyez pas, vous, Julien?
Et en même temps, si on regarde simplement le secteur IT, puisque vous mentionnez Apple, c'est clair qu'on a intérêt à ce que le secteur des nouvelles technologies bouge et diminue son bilan carbone, parce qu'à l'échelle d'un pays, ce serait le troisième ou quatrième pays le plus pollueur.
Voilà, on parle beaucoup du secteur aérien, mais c'est
Bien sûr, absolument.
C'est Davos de se retrouver dans une station.
Oui, et donc on a besoin que ces gens prennent des engagements, mais ce n'est pas eux qui décident de quels engagements ils vont prendre. On ne peut pas attendre une proactivité de leur part, alors que si on prend les grandes compagnies pétrolières, ils étaient au courant de l'enjeu du réchauffement planétaire depuis 1965. Et donc tout ce qu'ils font, c'est essayer de maximiser leurs profits et tous les puits de pétrole qu'ils ont ouverts jusqu'à présent, jusqu'au moment où on leur dira « basta, maintenant ça suffit ». Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « basta, maintenant ça suffit ». Et on voit que ce n'est pas à Davos que ce genre de choses se décident. Et alors Davos, c'est toujours aussi quelques jours avant, les Oxfam International qui publie son grand rapport sur les inégalités. On voit qu'il y a toujours plus de plus riches, plus de milliardaires, et que les inégalités se creusent toujours plus, avec en plus une dimension genre, où il y a toujours plus d'hommes milliardaires et toujours plus de femmes pauvres. Et donc, malheureusement, ça ne se discute pas à Davos.
Donc derrière les discours et derrière ces quatre jours à Davos, les choses n'avance pas très vite, sujet de boulet, on va résumer comme ça.
Radicales, et elles ne seront pas prises à Davos.
C'est pas là qu'on va changer le monde, Valérie Lerouge.
Ça fait 40 ans donc ça existe, plus de 40 ans, les rapports d'Oxfam, presque autant à mon avis, et ils se suivent, ils se ressemblent, mais de fait, on en discute, je suppose, un peu à Davos, mais il ne se décidera rien et ça ne changera rien.
Allez, on va terminer cette discussion avec vous deux en vous demandant quelle a été votre première pensée en vous réveillant ce matin, Juliette Boulay? Quelle a été la première idée lorsque vous êtes sortie du lit?
Juste l'œil du 20h à France 2, pour parler de vos collègues en France, qui ont fait un très chouette reportage hier sur, malheureusement, le trafic illégal de lions et de tigres au Pakistan. C'est les nouveaux animaux de compagnie des riches dans des grandes villes au Pakistan. Et donc, je me dis que, de nouveau, il y a encore des combats importants qu'on doit mener, parce que voilà, jouer avec la faune, la flore et la biodiversité, voilà, ça ne se transforme pas en animal de compagnie. Les félins, c'est dangereux et ça a aussi un habitat. Ça doit vivre dans un autre écosystème qu'un salon.
Valérie Lerouge, vous n'avez pas de lion au pied de votre lit qui vous a réveillé ce matin, j'imagine. Quelle a été votre première pensée ce matin?
Le crawl du jour, en le lisant dans le soir, j'ai trouvé ça assez rigolo. Les deux informateurs, Joachim Kuntz et Jean-Louis Boucher, qui reviennent fièrement de chez le roi. Le Kuntz dit « excellent le coup des fleurs pour la reine ». On l'a vu effectivement,
oui,
Boucher avec le grand bouquet de lys pour l'anniversaire de la reine. Et Boucher qui lui répond: avec notre rapport de mai, on lui offrira du muguet et en novembre, des chrysanthèmes. Et ça résume assez bien quand même ce feuilleton que j'ai personnellement un peu de mal à suivre et qui finit par me lasser aussi.
C'est vrai? Ça vous lasse?
Alors, sauf quand on va approcher le record des 540 jours, là je vous l'ai déjà dit, là on en fera des tonnes, évidemment, sur France 2.
Vous serez invité aussi, Valérie Lerouge, pour nous parler de ce record des 541 jours. Merci à vous deux, Valérie Lerouge, correspondant à Bruxelles pour France Télévisions, et Juliette Boulay, porte-parole de Greenpeace. Dans quelques instants, le naufrage du sous-marin russe, le Kursk. Une semaine de suspense horrible pour les familles de l'équipage, on vous la raconte. Cette semaine dans votre série Un jour dans l'info.
Matin première.